Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Aujourd'hui, nous rendons hommage au plus grand perfectionniste de l'histoire et on commence avec l'un des plus célèbres. Stéphane Bern nous raconte Léonard de Vinci.
Les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail. Cette phrase est signée du maître Léonard de Vinci. Pendant les 67 années de sa vie, le peintre, l'un des plus célèbres du XVIe siècle, s'est soumis à une rigueur et à des méthodes scientifiques pour atteindre au plus près la perfection. Depuis, ses procédés novateurs en pleine Renaissance ont fait école. Bien sûr, on retient de lui ses somptueux et envoûtants tableaux, la Seine, l'Annonciation, évidemment, sa fameuse Gioconde, la Joconde.
Que c'est le moment d'aller voir, je le dis à nos auditeurs, au Louvre, j'y suis allé l'autre jour, il n'y avait pas de queue, on entre au Louvre directement et on se retrouve devant la Joconde en d'autres mouvements.
Exactement. On ne peut parler de Léonard de Vinci sans évoquer aussi son char d'assaut, sa représentation de l'homme parfait, l'homme de Vitruve, ou son prototype de parachute. Humaniste, végétarien, on en a parlé ici même. Léonard de Vinci, 500 ans après sa mort, n'en finit pas de susciter la curiosité. Si son génie a souvent été salué et parfois remis en cause, sa quête perpétuelle de vérité, son besoin de vérification n'ont eux jamais fait débat. On ne lui connaît ni véritablement de femme ni d'enfant. Certains disent qu'il n'en avait pas le temps, trop occupé à étudier, compter, comparer et perfectionner. Moi j'ai une autre thèse. Contrairement...
Quelle est cette thèse, Stéphane ?
Il n'était pas porté là-dessus, vous voyez, il était plutôt porté sur les chars d'assaut. D'accord. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Léonard de Vinci ne doit pas son goût pour la perfection à une formation scolaire rigide, faite d'enseignement classique. Bien au contraire, fils illégitime d'un notaire du nom de Ser Piero et d'une jeune femme Caterina, il est notamment élevé par son grand-père dans la campagne toscane. Il apprend donc tout par lui-même, essentiellement en observant la nature. « Ouvre l'œil », lui disait son grand-père. Loin d'être contemplatif, il remplit très tôt des carnets, où il croque des animaux, des arbres, des vallées, quitte à recommencer des dizaines de fois. Son objectif, c'est pas de sublimer, mais de restituer le plus fidèlement possible, et le plus précisément, la branche, le tourbillon de l'eau, l'oiseau. En âge de lire, il parfait ses connaissances en dévorant des ouvrages scientifiques. Le premier recueil qu'il ouvre est « Métamorphose d'Ovide ». Bon, c'est une révélation. Cela le pousse à décrypter encore plus scrupuleusement la nature, sa transformation au fil des saisons. Il en va ainsi toute sa vie, rompant avec le dogme religieux. Il veut faire preuve d'objectivité, de réalisme. Léonard de Vinci écrit dans l'un de ses carnets « Fait l'anatomie des ailes d'un oiseau avec les muscles pectoraux qui les font mouvoir ». Quand il inaugure son atelier à Florence à l'âge de 26 ans, l'une de ses premières commandes est un grand tableau pour le couvent augustin de San Donato a Scopetto, l'adoration des mages. Mais pour le réaliser, Léonard de Vinci se jette à corps perdu dans d'innombrables esquisses préparatoires. Tant qu'il ne parvient pas au coup de crayon parfait, eh ben il recommence. Encore une fois, et puis encore une fois, et encore et toujours. Léonard de Vinci tranche face à des peintres plus classiques, par sa précision, mais aussi parce qu'il est impossible de le ranger dans une case en particulier. Tour à tour, peintre à Florence, ingénieur hydraulique à Venise, il se met au service de César Borgia, le fils du pape Alexandre VI. J'ai conscience de dire le fils du pape, ça fait toujours
le
drôle.
Le fils du pape, c'est bon, oui. C'est...
Oui, mais parce que c'était les Borgia.
On l'avait raconté.
Son rôle, répertorier les forteresses acquises dans le centre nord de l'Italie. Léonard de Vinci devient officiellement cartographe. Il contribue par son travail titanesque et fouillé à l'émergence de la cartographie moderne. Et pour ça, il faut être d'une précision redoutable, vous l'imaginez bien, Mathieu. En 1502, il doit cartographier la ville fortifiée d'Imola, à 70 km au nord de Florence. Alors que ses collègues ont pour l'habitude de dessiner des plans avec une vue oblique, avec le risque de ne pas représenter certains points d'intérêt et parfois même d'oublier des routes, Léonard de Vinci révolutionne le genre. Il représente la ville en vue zénitale, une première. Pour parvenir à une telle précision dans le résultat, il mesure les angles de chaque coin de rue et les distances qui les séparent.
Il faisait ça tout seul ou il avait des assistants ?
Il avait évidemment
de
jeunes assistants.
Je vois mal Léonard tout seul en train
Bien
de mesurer
sûr,
avec une équerre et une règle.
Il avait des assistants, mais il n'empêche. Les recherches depuis 500 ans démontrent que Léonard de Vinci est obnubilé par la compréhension et donc la maîtrise totale de son travail. Une obsession qui l'oblige à reculer régulièrement la date de livraison de son œuvre ou de sa commande, ce qui expliquerait qu'il ait fait si peu d'œuvres en tant de temps. Il y a très très peu de tableaux de Léonard de Vinci. Et puis, Vinci se montre également incapable de se cantonner à un domaine. tous les sujets de réflexion l'intriguent. Parmi ses travaux d'études préférés et moins connus, il y a l'anatomie. Il veut composer un traité d'anatomie. Pour y parvenir, comme à son habitude, il privilégie la pratique à la théorie. Et vous le savez, Mathieu, puisqu'on en a parlé ici, il n'hésite pas à disséquer de nombreux cadavres, notamment d'anciens prisonniers. Au total, Vinci produit environ 250 planches anatomiques. Muscles, organes, veines, os, des os. Parce que dire os comme ça, c'est bizarre. Rien n'échappe à l'œil du peintre disséqueur. Dans l'une de ses planches, il décrit avec une extrême exactitude le système urologique. Léonard de Vinci est l'un des premiers à dessiner le canal commun à la fois à l'urine et au sperme.
Ah oui, il allait loin dans le détail quand même.
Ah oui, très très loin. Clin d'œil de son apport non négligeable à la science, désormais, pour opérer certains cancers de la prostate, les chirurgiens utilisent un robot muni de bras et permettant une chirurgie micro-invasive. Est-ce que vous connaissez le nom de ce robot ?
Oui, mais je le connais, c'est le robot Da Vinci. Mais vous m'avez l'air très informé sur les techniques pour soigner la prostate, Stéphane.
Oui, vous savez, j'arrive à un âge
où on s'en préoccupe. Mais ça va venir aussi pour moi, vous me donnerez vos petits conseils.
Attendez,
comme ça,
une petite dizaine d'années.
Non, on n'est jamais trop prudent.
Voilà. Vous savez, tout s'affaisse et tout grossit avec le temps. Léonard de Vinci a sans cesse le cerveau en ébullition. Il veut tout comprendre, tout expliquer. Le doute n'est pas possible. Il est par exemple fasciné par le cœur. Pour en découvrir les secrets, il injecte de la cire chaude dans un cœur de bœuf pour en faire un moule et par la suite reproduire un cœur en verre soufflé. Cette ingéniosité lui permet de découvrir les quatre cavités cardiaques.
Il fait vraiment figure de savant fou quand même un petit peu, de Vinci. Il touche à tout.
Absolument, c'est un touche-à-tout, oui, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Et si Léonard de Vinci est connu pour ses inventions parfois loufoques vers la fin de sa vie, ce n'est pas uniquement la science qu'il va influencer, mais le pouvoir et le pouvoir français.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on s'intéresse aux perfectionnistes de l'histoire, peut-être pour s'en inspirer un peu. Avant la pause, Stéphane, vous nous racontiez l'histoire passionnante de Léonard de Vinci, à la fois peintre, scientifique, cartographe et surtout infatigable perfectionniste, donc qui va influencer le pouvoir en France.
Oui, ce que je vous disais, Mathieu, c'est qu'à l'automne 1516, Léonard de Vinci s'installe en France à la demande du roi François Ier, qui sollicite ses services et lui offre, à quelques centaines de mètres seulement de son château d'Amboise, le château de Clou, qui deviendra le Clos Lucé, en cadeau de bienvenue. Le souverain le paye 1000 écus d'or par an et le nomme premier peintre, premier ingénieur, premier architecte du roi, en le laissant libre de rêver, de penser, de travailler. Et en parlant de rêve, François Ier en a un. Celui de faire construire par Léonard de Vinci une cité parfaite. La ville choisie, voyez-vous, c'est Romorantin, dans l'actuelle Loire-et-Cher. Vinci imagine la construction d'un immense et imposant palais, d'un nouveau réseau de voies navigables nécessitant le détournement d'un fleuve. Il réalise les premières esquisses d'un canal entre la Loire et la Saône. L'objectif de François Ier à l'époque est de prouver au monde entier, et notamment à son ennemi juré Charles Quint, sa surpuissance. Malheureusement, à la mort de Léonard, 3 ans plus tard, en 1519, François Ier abandonne l'idée et se concentre sur son palais Chambord. Chambord, pour lequel Léonard de Vinci avait aussi imaginé ce qui reste peut-être comme sa plus brillante création. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, c'est l'escalier à double vis. Si vous voulez, c'est extraordinaire. Vous montez, vous descendez, vous ne croisez pas l'autre. C'est ça qui est merveilleux.
Vous ne croisez pas l'autre, c'était le Covid avant l'heure, quoi. C'était oui, une conception de distanciation sociale,
c'est
déjà.
C'est magnifique, parce qu'au fond, d'habitude, dans un palais, vous mettez en exergue la chapelle. Là, pas du tout. La pièce maîtresse de ce château, c'est l'escalier central qu'on a retrouvé dans les carnets de Léonard de Vinci. Mais François Ier n'a pas fait appel à Léonard de Vinci uniquement pour son talent d'architecte ou d'ingénieur. En faisant venir l'artiste florentin auprès de lui, le roi français veut aussi profiter de son expérience de la Renaissance. Et il le nomme, une chose qui faisait très bien Florence, maître des divertissements. Et oui, à 64 ans, Léonard de Vinci va se montrer plus qu'à la hauteur. Il devient le chef d'orchestre des plus originales, des plus grandes fêtes jamais organisées. En mai 1517, par exemple, il dirige la somptueuse fête célébrant la victoire de François Ier à... 2 ans avant,
Marignan,
merci, il y en a qui suivent. Il dévoile des mécanismes fantastiques, des automates, une voûte céleste représentée par 400 candélabres, des fauconniers tirent du haut des créneaux, des boulets de papier, de chiffon, des canons font pleuvoir sur le sol, des ballons qui rebondissent et amusent énormément les convives.
Ça me rappelle votre anniversaire, Stéphane,
les costumes,
tout ça.
Oui, mais c'était la fête d'Advid Chicot, vous vous souvenez. Les costumes des figurants, on en dénombrait pas moins de 10 000 selon les organisateurs, sont étincelants. Bref, c'est la consécration pour Léonard de Vinci qui offre au roi une fête forcément parfaite.
Europe 1, historiquement vôtre.